Et aujourd'hui, nous avons donc devant nous ce sujet, l'homme et la femme dans l'Église. Je tiens à préciser une chose, c'est que nous considérons ce sujet sur ce côté de cette Église universelle. Bien sûr, il y a un rapprochement à faire avec le rassemblement local, mais c'est sur ce grand principe de cette Église universelle, de cette perle de très grand prix que nous désirons ainsi considérer quelque peu ce sujet. Alors peut-être, comme je l'ai noté au début, cette introduction, avant d'entrer un peu en détail dans ce sujet, il est bon de se rappeler ce qu'est l'Église aux yeux de Dieu. Il l'a acquise par le sang de son propre Fils, acte 20, verset 28. Et puis ce qu'elle est pour le Seigneur, son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, Éphésiens 1, 23. Et puis ce qu'elle est sur la terre, colonne et soutien de la vérité, 1 Timothée 3, verset 15. Alors dans cette Église, chaque homme et chaque femme y prend place par la conversion. La responsabilité de chacun est alors engagée dans l'obéissance et la soumission à ce que Dieu veut pour lui-même et pour la bénédiction de l'ensemble. Pour situer le cadre dans lequel l'homme et la femme sont appelés à agir dans l'Église, il est bon de se rappeler que dès la Genèse à la création, on voit la position de chacun définie par Dieu et rappelée en 1 Corinthiens 11, versets 7 et 8. Peut-être on peut lire ces versets. 1 Corinthiens 11, versets 7 et 8. Car l'homme étant à l'image de la gloire de Dieu, ne doit pas se couvrir la tête, mais verset 8, car l'homme ne procède pas de la femme, mais la femme de l'homme. Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Et cette position entre l'homme et la femme perdure dans le Nouveau Testament, probablement même accentuée par l'entrée du péché dans le monde selon 1 Timothée 2, versets 13 et 14, qu'on peut aussi lire rapidement. Parce qu'effectivement, je pense que c'est sont très importants et dépassent le cadre de l'Église. 1 Timothée 2, verset 13, « Car Adam a été formé le premier, et puis Ève, et Adam n'a pas été trompé, mais la femme ayant été trompée est tombée dans la transgression. Mais elle sera sauvée en enfantant si elle persévère dans la foi, l'amour et la sainteté avec modestie. » On voit donc là que cette distinction voulue par Dieu entre l'homme et la femme, et cette distinction se continue dans l'Église. Et alors j'ai ajouté, il est donc évident que si l'homme et la femme sortent de ce cadre, Christ, le chef de l'Église, sera déshonoré et la vie du rassemblement local sera perturbée. L'homme et la femme ont donc une responsabilité personnelle selon 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ, que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu. L'homme a Christ pour chef et la femme a l'homme pour chef. Ceci étant, on doit s'empresser de dire que cela est valable uniquement pour l'administration de ce qui est demandé aux chrétiens sur la terre, car selon 1 Corinthiens 11, verset 11, ils sont à égalité dans le Seigneur, autrement dit, dans leur position spirituelle. Quelques versets considérant déjà l'homme, alors sa responsabilité personnelle, on vient de le lire dans 1 Corinthiens 11, verset 3, et puis sa responsabilité dans sa famille, alors vis-à-vis de sa femme, peut-être on peut rappeler rapidement ces versets qu'on connaît bien, Éphésiens 5, verset 25, « Marie, aimez vos propres femmes comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée », Colossiens 3, 19, « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles ». Vis-à-vis de sa maison, ce que je voulais lire en 1 Timothée 3, verset 4 à 12, alors pour ce qui est de l'homme, il nous est dit, « Non adonné au vin, non batteur, mais doux, non querelleur, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu ?» Qu'il soit nouvellement converti, etc. Et puis, vis-à-vis de ses enfants, alors il n'est peut-être pas utile que je cherche les versets, Éphésiens 6, verset 4, Colossiens 3, verset 1, et puis, On a aussi quelque chose de cela dans Deutéronome 6, verset 6. Peut-être on peut lire ces versets rapidement, ou quelques versets. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras par le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur ta main, et elles te seront pour fronton entre tes yeux, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Puis alors, nous avons sa responsabilité dans l'Église. Alors, j'y reviens pas, je l'ai lu tout à l'heure. Sa tenue, déjà, c'est la tête découverte, selon 1 Corinthiens 11. Sa chevelure courte, nous le savons aussi, c'est 1 Corinthiens 11, verset 14. Et puis, dans l'Église, il y a l'exercice, ce qu'on appelle des dons dits fondamentaux, pasteur, docteur, évangéliste, Éphésiens 4, verset 5. On connaît ces trois dons fondamentaux. J'ai noté, il semble que ces dons sont exclusifs à l'homme. Celui de la prophétie peut être vu chez la femme, selon 1 Corinthiens 11, verset 5, je crois. Ces diverses fonctions et leurs conditions morales, on peut lire peut-être 1 Timothée 3, verset 2. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non adonné au vin, et la suite des versets que j'ai lus tout à l'heure. Et puis, il y a aussi le surveillant, il y a le serviteur, 1 Timothée 3, dans le même chapitre, verset 12, que les serviteurs soient maris d'une seule femme, conduisant bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui ont bien servi acquièrent un bon degré pour eux et une grande hardiesse dans la foi et dans le Christ Jésus. Sur ce côté du serviteur, j'ai mis une parenthèse, probablement dans un sens très large. Puis il y a les anciens, Tite 1, verset 5 et 6, il est dit, ces versets que je lis, que dans chaque ville tu établisses des anciens, suivant que moi je t'ai ordonné, si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme ayant des enfants fidèles, qui ne soit pas accusé de dissipation ou insubordonné. Car il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu, non adonné à ses sens, non colère, non adonné au vin, etc. On voit que ces qualités morales sont valables autant pour l'ancien que pour le serviteur. Alors, dans sa responsabilité dans l'Église, on peut ajouter la recherche de l'édification selon 1 Corinthiens 14. On connaît, je ne vais pas lire 1 Corinthiens 14, ça serait trop long, on connaît ce que l'apôtre nous enseigne dans ce chapitre et j'ai souligné exprès. Le mot « édification » est répété quatre fois. Donc, ce que l'homme est invité à rechercher, c'est l'édification. L'édification, ça paraît très important. C'est d'autant plus important que, je crois que dans deux versets, j'ai marqué le verset 20 et 26, sauf erreur, l'apôtre s'adresse aux frères. Alors, ce qui est important, c'est que nous pensions que les frères en particulier qui sont à même de présenter la parole et cette pensée que ce soit pour l'édification. Passons à la femme, son comportement général. Alors, la simplicité dans le vêtement, on connaît ces versets. 1 Timothée 2, verset 9. De même aussi que les femmes se parent d'un costume décent, avec pudeur, modestie, non pas de tresses d'or ou de perles ou d'habillements somptueux, mais par de bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et puis, son apparence extérieure est en rapport avec son état intérieur, 1 Pierre 3, verset 3, afin que par la conduite de leurs femmes, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte, vous dont la parure ne doit pas être une parure extérieure qui consiste à avoir les cheveux tressés et être paré et habillé de beaux vêtements, mais l'homme caché du cœur dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. On comprend bien que ces versets sont, comme je l'ai dit, en rapport avec un état intérieur. Alors, ce qui lui est demandé, la soumission, j'ai souligné ces deux versets qui sont très importants, la soumission, non la servitude, très certainement différent. Alors, en Éphésiens 5, 22, il est dit, on a ces versets où il nous est dit que la femme doit être soumise à son mari, il est dit comme au Seigneur. Et puis dans Colossiens, c'est dans le Seigneur. Je crois que ces deux versets soulignent l'importance de ce qui est demandé à la femme, comme au Seigneur et dans le Seigneur. Alors, on a ces caractères moraux, on peut aussi les lire, 1 Timothée 3, verset 11. De même que les femmes soient graves, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. En 1 Pierre 3, verset 4, un esprit doux et paisible. C'est la suite des versets. Mais l'homme caché du cœur dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, ce que nous avons déjà lu tout à l'heure. Et puis, il y a sa place devant l'homme. Ne pas user d'autorité. 1 Timothée 2, verset 12. Et puis, son comportement dans l'Église. Le silence, se taire dans l'assemblée, 1 Corinthiens 14, versets 34 et 35. Et puis, sa tenue, et 1 Corinthiens 11 nous donne beaucoup d'enseignements à ce sujet. 1 Corinthiens 11, versets 5 et 10. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête découverte déshonore sa tête. Déshonore sa tête, et je crois qu'au verset 10, il est ajouté. C'est pourquoi la femme, et la raison en est donnée là, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise. Peut-être c'est quelque chose que nous oublions, c'est qu'il y a ces anges qui voient ces choses. Et là, il est dit « à cause des anges ». Il est parlé des bonnes œuvres, alors on a plusieurs versets, 1 Timothée 2, verset 10, il y aurait sûrement d'autres versets, hein. Timothée 2, verset 10, « Mais par de bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Et puis, je crois qu'on a aussi un verset, toujours dans le même épître, 5, verset 10, « Ayant le témoignage d'avoir marché dans les bonnes œuvres, si elle a élevé des enfants, si elle a logé des étrangers, etc. » Je n'insiste pas plus. Et puis, ce verset aussi bien connu de l'Épître à Tite, où il nous est dit, chapitre 2, versets 4 et 5, il nous est dit, « Enseignant de bonnes choses, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, occupées des soins de la maison, bonnes, soumises à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » C'est très remarquable, dans cet épître à Tite, c'est un rapport avec la vie pratique, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alors j'ai ajouté que, pour l'encouragement de la femme, on peut voir le témoignage rendu par Paul en Romains 16 à plusieurs femmes. Alors je n'ai nommé plusieurs, Phoebé, servante de l'Assemblée, Marie, Tryphène, Tryphos, Persis, appelé bien-aimé. Il est intéressant de relire ce chapitre et de voir que ces femmes ne sont pas du tout passées sous silence, elles sont mises même en évidence là, dans la bouche de Paul. On peut voir aussi le travail de couple avec Prisca et Aquilas et le témoignage que leur rend Paul en Romains 16, verset 3. Chacun pourra lire le verset. Et leur service à l'égard d'Apollos en Actes 18, verset 26. Puis alors j'ai ajouté aussi, on peut ajouter la position du couple et le service commun de la prière. Peut-être on peut lire ce verset, 1 Pierre 3, verset 7. Alors je dis bien, là c'est pour le couple. Hein. Pareillement, vous, mari, homme et femme, autrement dit, demeurez avec elle, selon la connaissance, comme un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur et gloire, étant ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que nos prières ne soient pas interrompues. On peut aussi mentionner le comportement social qui est demandé et qui est valable alors autant à l'homme qu'à la femme. J'insiste sur ce côté. Alors, la soumission aux autorités. Romains 13, verset 1. Et cela paraît particulièrement important de nos jours où la contestation fait partie de la vie sociale. Donc, ce côté de la soumission aux autorités demeure, il est autant valable, bien sûr, pour l'homme et la femme. Et puis, j'ai marqué dans la profession, l'obéissance à nos maîtres, c'est-à-dire nos supérieurs. Éphésiens 6, verset 5, Colossiens 3, verset 22. Alors, je crois que dans ces versets, si on veut les lire, on le connaît, l'apôtre s'adresse aux esclaves. Alors, dans ces versets, il s'agit de l'esclave de ce temps-là, mais nous pouvons retenir l'exhortation car dans beaucoup de professions, hormis les professions libérales, il y a une hiérarchie établie que chacun doit non seulement respecter, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Alors toujours dans la profession, la responsabilité des maîtres, ceux qui ont des responsabilités dans divers domaines, dans une entreprise ou ailleurs, ceux qui ont sous leurs ordres des employés ou des ouvriers, Éphésiens 6, verset 9 et Colossiens 4, verset 1. Peut-être on peut le lire, ça ne nous prend pas beaucoup de temps. Éphésiens 6, verset 9. « Et vous, maîtres, faites-en de même envers eux, renonçant aux menaces, sachant que et leur maître et le vôtre est dans les cieux, et qu'il n'y a pas d'acception de personne auprès de lui. » Et puis j'ai mis, en tournant la page, deux pages, 4, verset 1. « Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans les cieux. » Et puis alors, on a le témoignage. J'ai pensé aussi à cela, qui est autant valable pour l'homme et la femme dans l'Église. Alors, le témoignage pour Christ. Alors, on a ces versets de 2 Corinthiens 3, versets 2 et 3, qui nous est dit que nous sommes la lettre de Christ connue et lue de tous les hommes. Nous sommes, hommes et femmes, cette lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. Il n'est pas dit que devons être cette lettre de Christ, mais que nous sommes. Et je crois que ça nous interpelle tous. Et puis, il nous est dit en Matthieu 5, verset 13, que nous sommes aussi le sel de la terre. Juste le verset qui suit, en Matthieu 5, verset 14, la lumière des hommes. Selon ces versets, eh bien, ce n'est pas ce que nous devrions être, si même nous le pensons comme cela, mais c'est ce que nous sommes. Et nous sentons tout de suite combien notre responsabilité est mise là en évidence, n'est-ce pas ? Voilà, Dieu nous a placés, hommes et femmes, dans cette assemblée, dans cette église si précieuse au cœur de Dieu. Il nous dit, voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous êtes là au milieu. Avec tout ce qui en découle, tout ce qui nous incombe chacun. Je terminerai par ces versets. En conclusion, je dirais que chacun, homme ou femme, en restant dans le cadre que nous trace la Bible, glorifiera Dieu, sera richement béni et le rassemblement local sera enrichi. Il me semble que c'est ce qui doit résulter de cette position de chacun de nous, homme ou femme, dans l'Église. Chacun doit rester dans ce cadre que Dieu nous a départi. Et alors, eh bien, en restant dans ce cadre, nous glorifions Dieu, nous sommes richement bénis, on ne peut pas en être autrement, et le rassemblement local, alors, sera enrichi. J'ai fait un petit peu le tour de la question, mais peut-être, je le répète, il manque certainement des choses, et puis peut-être il y a des erreurs que je demande aux frères de rectifier, s'ils s'en aperçoivent. Il y a certainement des manques. Beaucoup de versets auraient pu être cités dans ce cadre de l'homme et la femme dans l'Église. Peut-être des frères là pourront compléter quelque peu ces quelques remarques. J'ai marqué à lui, comme nous l'avons chanté, à lui gloire dans l'assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations. En nous souvenant de ce verset qui a été lu ce matin au culte, cette perle de très grand prix que le Seigneur s'est acquise par le sang de sa croix.